Vous êtes sur RTL.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Dans ce journal, nous irons à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, à la recherche du corps de Delphine Jubilard.
Des fouilles de grande ampleur ont été lancées, notamment autour d'une ferme suspecte. Jean-Michel Blanquer dans la tourmente pour avoir lancé son protocole sanitaire à l'école depuis ses vacances à Ibiza. C'est un laboratoire français qui va produire le médicament Pfizer anti-Covid. Le groupe américain investit plus de 500 millions d'euros chez nous. À suivre également le phénomène Puff, ces cigarettes électroniques jetables qui cartonnent auprès des ados. Et puis l'Euro de handball, les experts ont battu la Serbie et ils se qualifient pour le tour principal.
RTL Matin.
Cela va donc durer des jours, peut-être même des semaines. Plus d'un an après la disparition de Delphine Jubilard, des fouilles intensives ont été entreprises aux alentours de sa maison.
Oui, des moyens inédits ont été déployés à Cagnac-les-Mines. Les gendarmes et des militaires sont mobilisés pour tenter de retrouver le corps. Ils ciblent notamment une ferme qui a brûlé il y a quelques mois. Cédric Jubilard aurait confié à un co-détenu que c'est là qu'il a enterré son épouse, Patrick Hisson.
Les militaires de la section des fouilles opérationnelles spécialisées ont ratissé hier un premier périmètre à proximité de cette ferme. À l'aide de matériel utilisé notamment sur les théâtres de guerre, ils ont sondé chaque mètre carré de terre afin de savoir si elle a été retournée dans l'hypothèse où encore aurait été enterrée. Ces fouilles se sont terminées hier vers 17h. Elles reprendront dès ce matin pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces vérifications déclenchées après le témoignage d'un co-détenu à qui Cédric Jubilard aurait avoué avoir enterré Delphine à cet endroit, sont accueillis avec beaucoup de réserves, non seulement par les avocats de Jubilard, qui ne jugent pas crédible cet accusateur, mais aussi par l'avocat de la cousine et des amis de Delphine, pour qui Cédric Jubilard est un provocateur qui se serait moqué des enquêteurs.
Patrick Hisson du bureau RTL de Toulouse. Éric Zemmour va faire appel de sa condamnation pour incitation à la haine raciale. La justice lui a infligé une amende de 10 000 euros pour ses propos sur les migrants mineurs. Un jugement idéologique et stupide, selon lui, il dénonce un procès politique.
Le protocole sanitaire à l'école continue de faire des vagues. C'est même une tempête pour Jean-Michel Blanquer.
Oui, nos confrères de Mediapart révèlent que le ministre de l'Éducation était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé ce protocole aux Parisiens. Des annonces que les enseignants avaient déjà jugées bien tardives. Le cabinet du ministre assure qu'il travaillait d'arrache-pied en liaison avec ses collaborateurs restés à Paris. Mais le symbole est plus que fâcheux. Dès hier soir, Yannick Jadot réclamait la démission de Jean-Michel Blanquer. Pour ne rien arranger, un nouvel appel à la grève est lancé pour jeudi dans les écoles, les collèges et les lycées. Les enseignants dénoncent le chaos créé par la gestion de la crise sanitaire. La France a franchi hier le cap symbolique des 100 000 morts du Covid à l'hôpital, mais la cinquième vague de l'épidémie a visiblement atteint un pic. Le nombre d'admissions en réanimation continue de baisser. En revanche, les admissions dans les services classiques sont toujours en augmentation. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que Pfizer va investir plus de 500 millions d'euros chez nous, 520 millions sur 5 ans pour soutenir la recherche et la production de traitements contre le Covid. Précisément, la fabrication de son nouveau médicament, le Paxlovid, est confiée au laboratoire Novacep de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est quasi une exclusivité mondiale et cela réjouit le PDG du groupe lyonnais, Michel Spagnol.
C'est une très bonne nouvelle pour nous. On est très fiers et je suis très fier des équipes de Novacep qui ont travaillé sur le projet. C'est une bonne nouvelle pour nous. Le travail technique a déjà démarré avec les équipes de Pfizer puisque c'est dans un temps très court que l'on doit mettre en œuvre cette production. Donc on va dans un premier temps embaucher une quarantaine de personnes sur le site de Mourinx. Les premières productions commerciales du Paxlovid, de la matière active du Paxlovid, devraient démarrer au troisième trimestre 2022. Ça va arriver très vite, particulièrement pour un produit d'une telle complexité. C'est des contrats qui typiquement s'étalent sur plusieurs années et qui certainement donnent une pérennité au site encore plus importante que nous l'avions déjà développé.
Le PDG de Novacep au micro RTL de Philippe Demaria. On le pressentait, les soldes d'hiver ont démarré vraiment très doucement. La fréquentation est meilleure que l'an dernier, mais les ventes sont clairement orientées à la baisse. 20% de moins qu'en 2020, 30% de moins qu'en 2019. Précision d'Éric Mertz de la Fédération Allure. C'est le nouveau nom de la Fédération de l'habillement.
Les remontées sont pas bonnes. On a eu un démarrage qui nous semblait encourageant sur les deux premiers jours, mais le premier week-end et marque un tassement de la dynamique. C'est très décevant par rapport à 2020, puisqu'on est en repli de 19%, et par rapport à 2019, c'est encore pire, on est en repli de 29%. Alors je crois que c'est un problème de fond. Ce décrochage, il est historique et le constat, il est implacable. Là, ce qui nous inquiète le plus, c'est que on n'a pas de perspective positive pour 2022. On est confronté à une poussée inflationniste et c'est un frein au pouvoir d'achat des ménages qui touche leur portefeuille par l'augmentation de dépenses contraintes comme l'énergie, l'alimentation. Et puis dans ce contexte-là, bah, il reste plus grand-chose. Et la consommation d'habillement, de textiles et de chaussures, elle décroche inexorablement.
Propos recueillis pour RTL par Pierre Herbulot. Les ventes de tabac ont reculé de plus de 6% l'an dernier en volume. Chiffre à nuancer car on compare avec 2020, l'année du grand confinement où les achats transfrontaliers n'avaient pas été possibles pendant 3 mois. Mais désormais, c'est un nouveau phénomène qui inquiète les addictologues, les puffs. Ce sont des cigarettes électroniques jetables de couleur vive, souvent avec des goûts fruités. Les ados en sont dingues. Vous avez pu le constater, Nathan Bocard.
Oui, et devant le portail de ce collège-lycée en banlieue parisienne, on peut voir des nuages de vapeur s'élever au-dessus de la petite foule d'élèves. Anaïs et Alix ont 14 ans et elles me montrent leur petite collection de bâtonnets colorés.
Donc il y a goyave-mangue, raisin glacé, menthe.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Bah, moi je trouve qu'en fait surtout c'est le goût qui change parce que la cigarette parfois c'est pas forcément très très bon.
Car avec les puffs, tout est fait pour attirer des consommateurs de plus en plus jeunes, des couleurs vives au goût fruité en passant par le prix de vente, 8 euros la cigarette jetable. À quelques centaines de mètres du lycée, ce buraliste voit les ados défiler pour demander des puffs.
Une dizaine ou une vingtaine par jour qui demandent approximativement, même très jeunes, voire 13, 14 ans.
Ici, certains élèves revendent même les puffs à leurs camarades via les réseaux sociaux. Mais ces cigarettes chargées en nicotine sont un problème de santé publique, selon Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac.
On va avoir un cerveau jeune qui va être exposé à la nicotine. Et on sait très bien que plus cette dépendance arrive jeune, plus elle est difficile à sevrer ensuite. Et ensuite, on va passer au tabagisme classique.
Selon lui, il faudrait responsabiliser les buralistes, mais aussi rendre les paquets de puffs neutres, comme ce qui a été fait pour les paquets de cigarettes.
Un reportage RTL signé Nathan Bocard. Le tabac se vend moins, mais l'alcool coule à flot. Les ventes de cognac ont bondi de 30% sur un an en valeur et de 16% en volume. On est même au-delà du niveau d'avant-pandémie. Notre premier marché d'exportation, ce sont les États-Unis, 115 millions de bouteilles achetées l'an dernier. Mais dans le même temps, les ventes ont grimpé de 55% en Chine.
La campagne présidentielle va prendre une tonalité très européenne cette semaine avec le discours d'Emmanuel Macron demain au Parlement européen.
Le chef de l'État doit lancer la présidence française de l'Union. L'occasion pour ses opposants de se positionner sur le sujet, mais chacun à sa façon, Vincent Derosier.
Oui, avantage Yannick Jadot. De tous les candidats à la présidentielle, l'écologiste est le seul à disposer du précieux badge de député européen. Il défendra donc son projet demain dans l'hémicycle et il n'oubliera pas de dire face au président tout le mal qu'il pense d'Emmanuel Macron, l'européen, comme il a déjà commencé à le faire, c'était dimanche sur RTL dans le Grand Jury.
Emmanuel Macron restera le président de l'inaction climatique.
Les autres candidats ont choisi des stratégies différentes. Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen veulent couper l'herbe sous le pied du président. Ils présenteront leur vision de l'Europe dès aujourd'hui dans des conférences de presse. Éric Zemmour, lui, se rend à Calais demain, un grand classique, pour dénoncer la gestion de la crise migratoire du chef de l'État. Enfin, Valérie Pécresse préfère carrément jouer la contre-programmation en allant dans le Lot parler de ruralité. Et depuis l'Élysée, on regarde tout ce petit monde s'agiter avec un brin de mépris. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, note un conseiller, mais tout le monde cale déjà son agenda en fonction de lui.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. C'est peut-être la fin d'un mystère vieux de bientôt 80 ans. On sait peut-être enfin qui a dénoncé Anne Frank et sa famille aux nazis en 1944. Il s'agirait d'un notaire juif qui aurait agi pour sauver sa propre famille. C'est du moins ce qu'affirme un livre fondé sur l'enquête d'un ancien agent du FBI.
Des révélations qui sèment le trouble et nous en parlerons à 6h15 avec notre invité. Il est le président du Consistoire Central, institution qui représente les Juifs de France, Maître Élie Corchia.
Et puis dans l'actualité ce matin, il y a ce cri d'alarme d'une dizaine de compagnies aériennes américaines, parmi les plus importantes, hein, American Airlines, Delta ou encore Southwest. Elles mettent en garde contre le chaos que pourrait créer le déploiement de la 5G autour des aéroports. C'est prévu pour demain. Elles redoutent notamment des perturbations sur les instruments de bord. À l'Euro de handball, les Bleus se sont qualifiés pour le tour principal en battant la Serbie 29 à 25. Ils occupent la première place de leur groupe et arrivent donc en position de force, grâce notamment à Quentin Mahé, 6 buts à lui tout seul.
Bah on a pris le match par le bon bout, je pense qu'on les a respectés, on a bien préparé ce match-là et puis on a pris du plaisir à monter les ballons, on s'est appuyé sur un grand Vincent Gérard, du coup on a pu pousser le ballon, qu'on ait consigné un but ou pas et c'est satisfaisant. Maintenant on est très, très content d'être qualifié, voilà, avec la manière, on a réussi à remplir le contrat tout simplement. Maintenant une nouvelle compétition, on commence à Budapest, on part avec 2 points, c'est cool.
Quentin Maillet avec nos confrères de Beansport. En tennis, deuxième journée de l'Open d'Australie sans Novak Djokovic. Richard Gasquet a éliminé un autre Français, Hugo Humbert. C'est déjà fini pour Hugo Gaston, sorti par le 175e joueur mondial. Chez les dames, Alizé Cornet s'est qualifiée pour le deuxième tour. Elle affrontera l'Espagnole Muguruza, qui a sorti une autre Française, Clara Burel.
Merci Isabelle Choquet, on vous retrouve à 7h30 à côté.